Salut à tous et bienvenue pour le 22e épisode de la saison 2 de Vue du Banc. Un épisode où on va revenir sur ce qu'il s'est passé ce week-end, entre autres Marseille-Lyon, Naples-Milan AC ou Tottenham-Manchester City. Et évidemment, un épisode comme d'habitude avec Christophe Kuchli. Salut Christophe.
Salut.
Et avec Raphaël Cosmidis qui finit son petit pain au chocolat.
Bonjour, bonjour. Oui, mais j'en ai encore un, donc il faut que j'arrive à le manger dans les moments où les autres vont parler. Donc,
voilà,
mais
tu as
un jeu pour ce podcast.
Tu as une vingtaine de secondes parce qu'en plus, il va falloir que ce soit toi qui démarre, vu que Christophe n'a pas assisté au choc de la Ligue 1 de ce week-end entre Lyon et Marseille. Victoire de Lyon 3-1 et victoire d'un Lyon notamment porté, Raphaël, j'espère que tu as terminé, par un excellent Alexandre Lacazette qui a été bon partout. En plus de son doublé dans le jeu, il a été à un niveau assez exceptionnel et sans doute le niveau du meilleur attaquant de Ligue 1 à l'heure actuelle.
Oui, sans doute. En tout cas, en termes de contribution au jeu collectif de l'équipe, c'est largement supérieur à ce que peut faire Cavani, par exemple, qui lui est peut-être meilleur en termes de finition devant le but sur des centres ou en première intention. Par contre, Lacazette, on a vu Lacazette qu'on connaît, Flo, en fait, mais qui se fait troller par la moitié de Twitter parce qu'il marque un peu trop de pénaux à leur goût, ou alors il n'est pas forcément toujours présent dans les gros matchs. Et là, c'est bien parce qu'il fait un match très très bon dans sa capacité à combiner avec les partenaires, puis il marque un doublé contre une grosse équipe, en tout cas dans un match qui est considéré comme un choc. Mais ce qui a surtout été marquant au-delà de sa finition, c'est qu'à chaque fois qu'il touche un ballon, il bonifie le jeu de Lyon, il arrive à faire en sorte que son équipe aille de l'avant, et ça c'est très intéressant, notamment entre les lignes, dos, but, un domaine dans lequel il a vraiment progressé par rapport au début de sa carrière, parce qu'il faut se rappeler que à l'époque où il commence à se révéler et il commence à toucher à l'équipe de France, ça lui arrivait aussi de jouer un peu sur un côté. Et d'ailleurs, Deschamps l'avait fait jouer sur un côté dans un rôle d'espèce d'ailier intérieur où il jouait en fait pour finir, mais c'était...
À la Loïc Rémy un peu.
Ouais, c'est vrai que Loïc Rémy a fait beaucoup de matchs comme ça en équipe de France. Un peu la Loïc Rémy comme ça, alors qu'en fait, la comparaison va être osée, mais bon, en même temps, elle est facile parce que c'est avec un autre Lyonnais. Mais moi, il me rappelle un peu Benzema dans la capacité à être bon dos au but. Il a joué à la fois dans un rôle de numéro 10 et un rôle de numéro 9. Voilà, c'est un joueur très doué. Alors, il a été facilité par le plan de jeu de Marseille, on en parlera après, mais c'est très prometteur et je pense que ça montre aussi à quel point il pourrait aller plus haut et j'aimerais bien voir ce qu'il pourrait faire dans une équipe dans plus haut rang.
Et justement, Christophe, t'as pas vu le match, mais t'as suivi, j'imagine, un petit peu ce qu'a fait Lacazette cette saison, au-delà de ses buts, etc. Justement, où est-ce qu'on peut l'imaginer s'il doit quitter Lyon et justement viser plus haut, comme le dit Raphaël, dans quelle équipe tu le verrais bien à l'heure actuelle?
Oula, tu me prends un peu de cours, je sais pas, là je suis en train de... Déjà, ça dépend, est-ce que lui a l'ambition d'être titulaire ou d'être plutôt dans une rotation qui sera amené à jouer assez régulièrement, mais pas en tant que titulaire indiscutable. Si c'est le premier cas, il peut par exemple essayer d'aller à Arsenal. Il y a peut-être une position à prendre devant Giroud. Et à ce moment-là, Sanchez resterait sur le côté. Parce qu'après, bon, il y a pas mal de clubs où il arriverait. Ça serait concurrence un peu d'égal à égal. Enfin, pareil à Liverpool, est-ce qu'il aurait directement sa place ou pas? City, je pense que non. Tottenham avec Kane, ça serait un petit peu difficile, surtout qu'il y a pas mal d'équipes en fait qui jouent à une seule pointe, donc forcément ça limite un peu les choses. Après, il y a aussi la possibilité d'aller dans un club comme Barcelone où il serait largement au-dessus de Paco Alcácer, qui est la première rotation de Suarez. Le problème, c'est que déloger Suarez, ça serait très compliqué. Donc le marché des attaquants est un peu conditionné par ça en fait, par le fait que beaucoup d'équipes jouent à une seule pointe, et si cette pointe fait une mauvaise saison. Tu prends par exemple la Roma l'an dernier, Dzeko fait une très mauvaise saison, et s'ils avaient recruté, je pense qu'assez rapidement tu aurais pu prendre la place. Et là, cette année, Dzeko est très bon, donc la place est réservée. C'est plus quand t'es un ailier que tu peux profiter de ça. Donc ça dépend, je pense, de pas mal de choses, des besoins des équipes. Je pense qu'il faudra qu'ils saisissent l'opportunité. Dans tous les cas, je pense que Lyon, ça commence à devenir un petit peu petit pour lui, qu'il a quand même fait globalement le tour de la Ligue 1. Alors, on ne va pas se plaindre s'il reste. Mais je pense que pour lui, pour sa carrière, pour sa progression, il faut qu'il aille dans un club un peu meilleur et qu'il puisse voir à quel point il peut hausser son niveau. Parce que peut-être que s'il va à Barcelone, alors il serait, je pense, quand même en dessous de Suarez, mais peut-être qu'il pourrait quand même faire jouer un peu la comparaison et être une rotation très intéressante s'il était entouré par des partenaires encore meilleurs.
Raphaël, il y a un autre joueur qui est un petit peu sorti du lot, mais à l'inverse de Lacazette, c'est parce qu'on le voit pas trop souvent. Du coup, quand on le voit et qu'il fait un bon match, ça se voit très vite. En plus, il a une belle chevelure décolorée. C'est Mamana derrière, côté lyonnais, qui a fait un match très intéressant, très solide, très bon dans la relance, une capacité aussi à aller chercher très haut ses adversaires, notamment pour bloquer Gomis, qui au final était le seul point de fixation de l'OM pour ressortir les ballons. Donc un très gros match et un joueur qui un petit peu, tu sais, comme Umtiti en équipe de France qui s'était imposé au final par défaut parce qu'il n'y avait plus rien d'autre, plus de solution, bah, peut-être que Mamana va faire son trou parce qu'au final, à côté d'Yangambiwa, il n'y a pas vraiment de solution.
Ouais, et puis très bon dans la relance, je suis d'accord, au moins dans les intentions, j'ai trouvé qu'il avait quand même arrosé parfois un peu trop
ouais,
et qu'il avait raté
sur
certaines transmissions. Mais en revanche, si tu veux, dans ce qu'il veut faire, il apporte déjà quelque chose de différent par rapport à ce que peuvent faire Mapouya Nkambiwa, Diakabi, Nkoulou. C'est-à-dire qu'il a l'envie de faire avancer le jeu, que ce soit par de la fixation. Il va souvent avancer balle au pied jusqu'à ce qu'une solution de passe se libère parce que quelqu'un vient le marquer lui. Ou alors, tu l'as dit, dans le gelon, dans la manière de changer d'aile, mais ouais, il y a encore eu quelques erreurs là-dessus. Mais ouais, en effet, tu sens, si tu veux, la fibre du défenseur central argentin qu'on a formé pour faire plus que défendre. Et c'est peut-être de ça qu'a peur Genesio, parce qu'il a un peu peur aussi de Darder et de ses qualités. Donc j'imagine que voilà, il a un peu peur de ça. Parce que là, je regarde les stats de Mamana, il a tenté 5 longs ballons, il n'en a réussi que 2, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles il peut progresser. Après, il joue tellement peu que sur un premier match, on ne va pas juger la qualité de l'entièreté de ce qu'il fait. Mais au moins sur le projet de jeu, ou en tout cas sur lui, sa manière de comprendre le jeu, dans cette équipe de Lyon où les défenseurs centraux ne faisaient pas vraiment avancer l'équipe, c'est intéressant, quoi, parce que ça te permet de faire avancer toute l'équipe. Et après, lui, je pense que petit à petit, il sera capable de trouver, avec ses passes qui cassent les lignes, de trouver par exemple la gazette de haut but. J'imagine que dans un schéma où Lyon est mieux préparé, ou en tout cas c'est comment il veut jouer, bah Mamana qui fait une passe à la casette de haut but qui ensuite joue sur un troisième homme, ça c'est un truc qui peut être très très intéressant et très difficile à défendre.
En plus, Christophe, quand tu inverses un petit peu ton milieu comme l'a fait Genesio, qui passait d'un milieu à 3 où justement il y avait Darder, à un milieu à 2 aujourd'hui avec Gonalon, Tolisso et vraiment 4 solutions offensives, à partir du moment où tu as un milieu de moins, avoir un défenseur qui est capable justement de prendre en main la relance et la première passe, comme l'a illustré Raphaël avec son exemple avec Lacazette, c'est forcément un plus pour un petit peu récupérer la créativité que tu as perdue au milieu en ajoutant un attaquant devant.
Ouais, là c'est quelque chose de purement mathématique finalement, puisque tu enlèves une personne capable de relancer bas, et ben si tu en ajoutes une qui joue une ligne derrière mais qui peut potentiellement se projeter un petit peu plus et justement ne pas déséquilibrer un peu le plan de jeu, ce qui fait qu'en gros tu arriveras dans la même zone du terrain dans des bonnes conditions, mais ce coup-ci tu auras mobilisé un joueur de moins à la relance et donc tu auras une solution offensive de plus, bah clairement c'est un gros atout. Donc tu peux faire sans, mais c'est vrai que ça te permet de pas faire redescendre des joueurs plus bas pour justement les mobiliser à la relance, et du coup ça permet de garder les joueurs offensifs dans des zones où ils pourraient être décisifs plutôt que de les faire se consommer dans une relance qui où bien sûr ils apporteraient leur qualité technique, mais ils montreraient qu'une seule partie de leur talent.
Alors, en face de Lyon, il y avait un adversaire, Raphaël.
Ah bon?
Malgré tout, un adversaire qui avait eu des problèmes. On en avait parlé la semaine dernière, qui avait eu des problèmes face à l'AS Monaco, qui en avait pris 4 et qui en a pris 4 deux fois. D'ailleurs, d'où la phrase de Rudy Garcia, si on enlève les matchs où on a pris 3 buts ou plus, on a une des meilleures défenses du championnat.
C'est une phrase qui a l'air bête comme ça, mais à la fois je comprends ce qu'il veut dire en fait. C'est-à-dire que si on oublie les fois où on part complètement en vrille et le projet tu vois, s'écroule, on n'est pas si mal que ça. Mais le souci, c'est que ça arrive contre les équipes qui sont bonnes, quoi. C'est pas juste des matchs au hasard où d'un coup, paf, t'exploses. Tu t'exploses contre les bonnes équipes. Donc il y a une logique à cette faiblesse, peut-être.
Alors justement, beaucoup pointent aujourd'hui du doigt la défense de l'OM, Raphaël. Et bon, en effet, c'est vrai qu'individuellement, Sakai, Rolando, Fanny et contre Lyon, Doria. C'était Doria qui était latéral gauche. C'est vrai qu'individuellement, ça souffre dans les duels. Ils ont du mal. C'est notamment beaucoup moins mobile que les attaquants lyonnais en plus. Mais c'est vrai que après, au-delà de ça, au-delà des défenseurs, il y a aussi les conditions qui font, les conditions tactiques, les conditions de jeu et ce qui se passe devant eux, qui font qu'aujourd'hui, les défenseurs sont quand même très exposés dès qu'ils doivent intervenir.
Alors, j'ai l'impression qu'à chaque gros match de l'OM, on dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que si on se rappelle du début de saison, il y avait un match contre Nice, à l'époque où c'était encore Franck Passy, où l'OM avait commencé par un très gros pressing haut, et c'était plutôt positif ce qu'on voyait, c'était intéressant. Et puis dès que le pressing ne fonctionnait plus, bah derrière, tu te rendais compte de toutes les faiblesses de l'OM, que ce soit au milieu, dans la manière d'essayer d'arrêter la progression adverse, ou derrière, défensivement, dès que tu es en 1 contre 1, ou dès que tu dois défendre ta surface, on se rendait compte que l'OM n'était plus capable de ça du tout. Donc Garcia fait à peu près la même chose dans les gros matchs depuis qu'il est arrivé, contre Monaco et contre l'OM, c'est-à-dire qu'il va commencer très fort par du pressing. Là, il l'a fait aussi au Parc OL où il a essayé d'empêcher l'OL de ressortir proprement et ça a plutôt bien fonctionné pendant un quart d'heure. Et c'est le quart d'heure où on avait l'impression que l'OM était du même niveau que l'OM. Et puis dès qu'ils ont reculé un peu ou dès que l'OL a réussi à trouver des sorties de balles, notamment avec Nomana qui a essayé de jouer un peu vers l'avant, bah là tu t'es rendu compte que ça déboulait très vite vers l'attaque. Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est que dès que le premier rideau marseillais était passé, t'avais l'impression que c'était une contre-attaque en fait, parce que l'OM se mettait à reculer très vite vers son but, mais n'était pas prêt du tout. Il y avait des solutions partout pour l'OL, que ce soit à l'intérieur avec Lacazette, que ce soit sur les côtés avec Fekir qui dézonnait ou Lacazette qui dézonnait, ou avec Valbuena et Cornet qui étaient vraiment collés à la ligne de touche pour créer de la largeur. Et ça, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que ton milieu, si tu veux, ne stoppe rien. Et on a encore vu un problème dont on avait parlé la semaine dernière aussi, c'est qu'on ne sait pas encore si l'OM veut défendre très haut ou veut défendre avec un bloc médian parce que les défenseurs sont très lourds. Et tu t'es rendu compte que, par contre, dans ce projet de bloc médian, il y avait une distance entre les lignes qui était immense.
Ouais.
Avec Lopez et Sanson qui étaient très proches de leur attaquant. Ensuite, Zambo qui était un peu dans un no man's land tout seul à devoir défendre. Et puis derrière la ligne de 4 qui était très très loin, très très loin. Et quand t'es comme ça, t'es obligé de défendre en reculant parce que tu ne peux pas prendre le risque d'avancer sur ton adversaire parce que dans le dos, il y a trop d'espace.
Et ouais, je vais rebondir là-dessus moi-même parce que sur ce match-là, pour moi, le vrai problème, en effet, tu parlais de leurs difficultés en bloc médian. Ils ont un bloc médian et notamment un milieu de terrain auquel je vais intégrer aussi Bafé Gomis et Anguissa, donc les six joueurs justement qui sont devant la défense, quand on est sur le bloc médian, ils ne ralentissent rien. Ils n'arrivent pas à ralentir la progression de l'adversaire. Alors, il y a plusieurs points importants. C'est d'abord Gomis qui ne défend pas assez, qui ne court pas assez pour un attaquant de pointe dans ce système-là pour que le bloc médian soit solide, pour bien protéger ses milieux. Ensuite, tu as en plus sur les côtés, puisque Gomis, de par sa position axiale, il est censé un peu soulager Lopez et Sanson dans le travail de cadrage de l'adversaire censé relancer. Et en plus, sur les côtés, tu as Thauvin et Sarr sur ce match-là, mais on va dire plus largement les deux ailiers, qui sont très orientés sur les latéraux adverses, c'est-à-dire que quand l'adversaire s'approche de leur zone, eux, ils se tournent et ils orientent déjà, vous verrez sur les résumés de match, voilà, vous verrez qu'ils orientent déjà leurs épaules par rapport au latéral adverse et absolument pas par rapport au joueur qui est dans l'axe, et qui peut, par exemple, trouver une passe entre eux, l'ailier, et le milieu de terrain, Lopez ou Sanson. Et ce qui fait que très souvent, l'OL est passé par ces fameux half space, en sortant une passe qui partait du milieu, du genre Tolisso, Gonalon ou Mamana et Ngambiwa, et qui passait entre Thauvin, déjà tourné vers son latéral, et Lopez, par exemple, axial, et qui passait entre les deux, et qui trouvait directement la casette Fekir, Valbuena ou Cornet, qui du coup se retrouvaient au duel avec les défenseurs marseillais et forcément en avance. Du coup, tu te retrouvais dans une situation où le cadrage de Lopez et Sanson, c'était impossible. Déjà que eux, c'est pas non plus des gros dévoreurs.
Ouais, je suis pas sûr non plus que tu puisses jouer tellement sans ballon avec les profils que t'as non plus, tu vois. Même si tu fais le maximum dans ton projet défensif, est-ce que vraiment avec Sanson, Lopez et ce numéro 6 qui te manque dans la récupération de balle, est-ce que tu peux être très bon sans le ballon? Je suis pas certain.
Moi je pense déjà que tu pourrais faciliter les choses. Je vais prendre un exemple, je vais ramener le truc aux Girondins, mais Bordeaux est en train de faire la même variation et de passer du 4-4-2 en début de saison et de passer à un 4-1-4-1. Et tu pourrais dire, tu vois, avec Vada et Plasil, par rapport à Lopez et Sanson, tu vois, défensivement, ça peut se rapprocher. C'est pas des monstres qui vont couvrir énormément d'espace, etc. Et ce que fait Gourvennec et ce que fait Bordeaux, et que je trouve assez intelligent sur les matchs que j'ai vus dernièrement, et notamment c'était face à Guingamp où ils avaient laissé la balle volontairement, c'est que au lieu d'être orienté très joueur est beaucoup trop orienté sur le latéral adverse, Malcolm et Camano, quand justement la relance s'approche du half space, ils viennent fermer intérieur, ils viennent fermer l'axe et après quitte à ressortir après sur le latéral, mais ils viennent protéger l'intérieur, et du coup ça facilite un peu le travail de Vada et Plasil dans leur travail de cadrage pour aller en allant de gauche à droite. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une évolution qui est nécessaire côté marseillais, c'est que moins d'orientation sur le latéral, parce que là, c'est vraiment de l'individuel sur les côtés. Hein. On a vu très souvent Thauvin se retrouver latéral droit pour fermer parce que Morel montait.
Même là, tu vois, quand ils étaient sur le latéral adverse, tu avais ensuite le ballon qui passait quand même jusqu'à l'ailier, très souvent, parce que la ligne de passe était ouverte. Et puis Valbuena, je regarde les stats, il a quand même touché 67 ballons. Et quand tu mets Valbuena face à Saka, il y a 67 ballons touchés. À un moment, tu vas payer l'écart de niveau entre les deux joueurs. Mais oui. Le souci de l'OM, c'est que tu vois, même leur plan que tu dis actuel sur le latéral, orienté très latéral, ne te permet pas d'empêcher le jeu sur les côtés.
Mais non, il marche pas.
Donc, tu as raison. Peut-être qu'il devrait plus s'orienter vers l'intérieur. Mais même celui-là, tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que s'ils orientaient plutôt vers l'intérieur, ça marcherait également? Je suis pas sûr. Parce qu'après, si tu orientes vers l'intérieur, mais que tu as des joueurs qui vont marcher physiquement, comme ça arrive en Ligue 1, sur Sanson et Lopez, ça peut aussi te poser problème.
Oui, bah après, mais je pense que tu vois, des joueurs qui marchent physiquement, là, on rentre dans une considération. C'est physique, c'est du duel. Voilà.
Ah, mais t'en as en Ligue 1.
Oui, mais si tes relayeurs se font marcher dessus, t'y peux pas grand chose tactiquement, je veux dire. Là, là, je pense qu'il y a déjà une partie qui peut être réglée sur le plan tactique. Voilà. On va appeler Christophe, qui dort peut-être, pour rebondir là-dessus. Est-ce que t'as un avis sur ce problème-là actuel de l'OM, le problème du milieu, et un problème qui peut aussi être en partie réglé, peut-être. C'est sur quoi je voulais terminer, et je vais te lancer là-dessus. Par William Vainqueur, qui n'était pas là sur ce match-là, puisque c'était Anguissa qui jouait 6, parfois un peu bas, parfois un peu perdu dans son positionnement, souvent très collé à sa défense pour intervenir. Et est-ce que Vainqueur, aujourd'hui, j'ai fait ce parallèle-là mon dernier article, peut être le joueur capable de couvrir l'espace qui va être libre derrière ses milieux? Un petit peu comme ce qu'a fait Nzonzi au FC Séville en début de saison, avant que ça change le système et que ça passe en 4-2-3-1 dernièrement.
Est-ce que Vainqueur peut se rapprocher d'un Nzonzi, d'un De Rossi, d'être un numéro 6 dominant? Je sais pas, honnêtement. Dans tous les cas, je pense que ce sera mieux que Zambo Anguissa, dont c'est pas forcément le poste et qui est en tout cas en apprentissage de manière générale sur un peu tous les plans du foot. Hein, c'est pas... il part pas de zéro, mais il est encore.
C'est pas un joueur fini, quoi.
Ascendant, oui, voilà. Donc, on sait pas encore ce qu'il sera, mais on sait que ce qu'il est actuellement, c'est pas top. Je t'avoue que j'ai pas de réponse définitive, donc je vais embrayer sur ce dont j'ai envie de parler très rapidement. C'est Rudy Garcia et les gros matchs. Parce que pendant que vous discutiez de choses technico-tactiques au demeurant fort intéressantes, je me replongeais un petit peu dans les archives de Rudy Garcia, et notamment Rudy Garcia en Coupe d'Europe, parce que c'est quand même là-dessus qu'on le jugeait aussi. Parce que bon, en Italie, il n'y a quand même pas 50 gros matchs, pareil en Ligue 1. Tu étais jugé sur tes 3-4 gros matchs qui, en plus, n'étaient pas toujours bien négociés. Alors, avec Lille, Rudy Garcia, en 2010, il fait la Ligue Europa, il est sorti par Liverpool. Bon, là, c'est pas scandaleux. L'année suivante, il est sorti par le PSV de Balázs Dzsudzsák, où il fait plutôt jouer l'équipe B pour se concentrer sur le championnat. Et derrière, il fait deux fois la Ligue des Champions. Il fait dernier du groupe derrière Trabzonspor et derrière le CSKA Moscou qui se qualifie. Et l'année suivante, il fait dernier du groupe derrière le Baté Borisov, en prenant aussi un 6-1 contre le Bayern. Un match où il avait aligné une équipe ultra défensive, puisque son milieu à 3, c'était Rosenal en numéro 6, Pedretti Balmont. Donc le côté défenseur central en numéro 6 qui est souvent tenté et qui marche pas nécessairement de manière générale.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, Christophe, parce qu'il avait fait la même chose contre le Barça avec la Roma. Voilà. Il avait joué très très bas au Camp Nou. Et il avait pris aussi 5 ou 6, 6-0 peut-être, un score comme ça, peut-être que tu l'as devant les yeux.
Là j'avais la Roma-Bayern où il prend 7-1, pareil il joue très bas. Bon, après il n'est pas aidé parce que sa défense centrale, il y a Young, Mbiwa et Mandolas et Andy Cole sur le côté.
C'était une des meilleures, si Andy Cole c'est gênant, c'était une des meilleures périodes du Bayern de Guardiola. En plus ils étaient ultra forts à cette époque-là et Robben était en feu, mais je pense que ça montre que Garcia en tout cas n'a peut-être pas le meilleur entraîneur pour jouer avec un bloc bas, en tout cas quoi. Déjà tu vois, dans les gros matchs il a essayé un peu tout, en ce moment il essaye le pressing haut avec Marseille, donc on verra à long terme ce que ça donne, mais il a déjà montré avec les blocs bas que finalement soit il n'avait pas les clés pour le faire fonctionner, soit il n'avait pas les joueurs. Et c'est un entraîneur qui est meilleur quand son équipe a le ballon. Donc je pense qu'il devra passer aussi par plus de possession à l'OM. Là, ils perdent contre Lyon 3-1. Ils prennent le premier but à la 43e minute, pardon. Ce qui normalement te fait dire qu'après le ballon devrait plus être pour l'OM. Parce que quand tu marques un but, généralement, tu laisses le ballon un peu plus à l'adversaire. Et malgré ça, je regarde les stats, ils sont à 42% de possession sur la rencontre.
Ouais.
Moi, je pense qu'avec un milieu comme ça, Sanson, Lopez et quel que soit le numéro 6, tu ne peux pas jouer avec seulement 42% de possession. C'est pas possible. Tu passes trop de temps sans le ballon à défendre. Et dès que tu as un espace à couvrir, parce que Lopez n'a pas forcément un immense corps et ne peut pas couvrir beaucoup d'espace, même si je pense qu'au duel, il est plus fort qu'on ne le pense, tu peux pas jouer comme ça. C'est comme si tu faisais jouer Cosiello un football avec 40% de possession. C'est très difficile pour des joueurs comme ça, et c'est pareil pour des ailiers comme Sarr et Thauvin qui sont pas les meilleurs dans le replacement. Donc il va peut-être falloir jouer un peu plus avec le ballon et c'est vraiment travailler le pressing à la perte pour récupérer rapidement. Mais est-ce que Gomis peut être là aussi dans un projet pareil? C'est toujours les mêmes questions pour l'OM finalement. Comment a été construite cette équipe et combien de temps il va falloir faire pour que ça colle aux idées de Garcia?
Clairement, pour revenir sur Garcia et sur son style de jeu, je pense que c'est quelqu'un qui est fort avec les faibles, faible avec les forts, qui arrive à rendre son équipe. Enfin, à multiplier le nombre de faibles, c'est-à-dire il va arriver dans une équipe qui va être dominatrice contre 10 ou 12 équipes, lui il va faire passer ce chiffre à 14 ou 15, mais il va toujours buter sur les 4-5 qui sont meilleurs. Et contrairement, enfin, tu vois, je parlais de Lille, Vahid Halilhodžić, lui il n'arrivait pas du tout à dominer contre les petits, mais par contre il savait mettre en place des plans de jeu qui arrivaient à stopper les forces de l'adversaire. Lui, il arrive à maximiser les forces de son groupe, mais dès qu'il arrive face à une équipe plus forte, eh ben, il n'arrive pas à trouver de solution. Et malheureusement, pour l'instant, son équipe de Marseille, elle est dans la hiérarchie des équipes de Ligue 1, derrière le top 5 en niveau effectif. Et donc là, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à la faire progresser avec le ballon, et il arrive plus facilement à punir des équipes comme Lorient, Caen, qui voilà, sont moins fortes, mais contre les meilleurs, pour l'instant, il n'a pas de solution. Et si son seul axe de développement, c'est d'être meilleur avec le ballon, eh ben, il faudra clairement soit prendre des meilleurs joueurs, soit vraiment progresser là-dedans. Parce que quand il va arriver contre des Lyon comme ça, des Monaco, eh ben, il va se faire punir par des équipes qui sont meilleures et plus réalistes.
On parle aussi souvent du besoin de recruter en défense pour être plus fort, tout simplement défensivement. Mais je pense qu'il va falloir recruter aussi un relanceur, parce que pour cet OM-là, avec ce milieu-là dont on a déjà parlé, si tu veux jouer avec le ballon, bah c'est un peu la même problématique dont tu parles souvent à Bordeaux, Flo. C'est-à-dire que si tu n'as pas les relanceurs qui te permettent de jouer au sol, les longs ballons, ils vont passer au-dessus de ce milieu et tu ne vas pas gagner les seconds ballons avec ces mecs-là. Bon, Sanson, il est peut-être plus rapide que Lopez quand il faut aller récupérer le ballon sur le deuxième ballon, mais tu ne pourras pas jouer autant que si tu avais un joueur, un relanceur qui serait capable de jouer ligne par ligne, en fait. Et là, tu es obligé d'avoir des joueurs comme ça. Et Rolando et Fanny ne sont pas ces joueurs-là. Donc, c'est peut-être le vrai projet de l'OM, c'est pas de recruter forcément des mecs qui sont très très forts défensivement, mais c'est de recruter des mecs qui vont te permettre d'avoir plus souvent le ballon, en tout cas. Mais et ça, c'est un profil qui est très très dur à trouver. J'ai essayé de chercher, même ne serait-ce qu'en Ligue 1 récemment. C'est très très dur à trouver. Je vous donne un nom, Belugou à Lorient. Il joue très peu, mais très bon relanceur. Ça peut paraître ridicule, mais il faut prendre des paris comme ça. Alors peut-être qu'ils vont faire marcher les réseaux de Zubizarreta. Mais c'est peut-être un profil plus difficile à trouver qu'un bon ailier ou un bon numéro 10.
Je t'aurais dit Maxime Lemarchand, moi. Je pensais que t'allais sortir
oui,
le Marchand.
Oui, aussi. Ouais, mais est-ce qu'il voudra partir de. Est-ce
qu'il oui,
va pas finir par jouer à Nice parce que ça a encore eu des difficultés récemment.
C'est vrai.
Ouais, mais ce serait aussi un très bon joueur.
Mais pour finir sur l'OM et justement sur ses problèmes de relance, c'est vrai que quand tu vois le match contre Lyon et que tu prends les 10 premières minutes. Marseille presse et en plus Marseille a réussi à placer une attaque, je crois c'est à la 7e minute exactement, où t'as Maxime Lopez qui fait tout du début à la fin parce que les Lyonnais le laissent complètement jouer quand il s'excentre, justement on revient au half space dans le half space droit et puis après cette action en fait les Lyonnais se disent ouais il faut peut-être qu'on le bloque en fait lui, puis ils le bloquent et derrière Marseille n'arrive plus du tout à garder le ballon et plus du tout à ressortir aussi parce que sur les transitions on voyait clairement le circuit que voulait faire Rudy Garcia à partir du bloc bas où tu sortais la balle, c'était appui sur Gomis, remise sur Lopez ou sur Sanson et profondeur avec Thauvin ou Bounassar, évidemment ça a été plus développé côté Lopez et Thauvin. Et le problème c'est qu'à partir du moment où tu as Thauvin qui est en orientation quasiment individuelle sur son latéral et que le latéral, vu que Lyon est en phase d'attaque, se retrouve à hauteur de la surface, et ben Thauvin il doit quand même faire une très très longue course pour pouvoir se projeter. Et du coup Gomis il doit être capable de garder la balle. Or, si c'est le seul joueur à cibler, bah, t'as deux ou trois joueurs qui se retrouvent très vite autour de lui, les joueurs censés couvrir côté lyonnais, et ça devient très compliqué de ressortir. Et l'OM n'a quasiment pas réussi à ressortir en contre-attaque.
Tiens, j'aurais bien aimé voir cet OM-là avec ma mana pour relancer. À l'inverse, ça aurait été intéressant.
Par exemple, oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne, vu qu'on a répondu à un peu tout sur ce Marseille-Lyon, en tout cas tout ce dont on voulait parler. On va passer avec Christophe à la Serie A, parce qu'on a reçu quand même pas mal de messages de gens, ah, vous parlez pas assez de la Serie A, etc. Alors c'est vrai qu'on la voit très peu, mais samedi, Christophe, tu étais devant Naples-Milan AC, et tu vas nous parler notamment de Naples, vu qu'on va les retrouver en Ligue des Champions face au Real Madrid.
Ouais, Milan-Naples pour être précis.
Milan-Naples.
Effectivement, match sympa qui a commencé sur des bases très élevées, puisqu'il y avait 2-0 pour Naples au bout de 10 minutes sur deux belles passes de Dries Mertens. Un match où Naples, pendant, on va dire, jusqu'au 2-1, marqué par Kuka sur une erreur de défense de Tonelli, qui, je crois, avec Alan, fait un peu n'importe quoi sur la relance au sol, où ils se font des 1-2 alors qu'il y a le pressing qui est là. Là, c'était à la 37e qu'il y a le 2-1. Après, il y aura plus de but, donc une victoire de Naples. Pendant la première demi-heure, on va dire que vraiment Naples était au-dessus. Alors, les deux buts, c'est des buts sur jeu en transition, attaque rapide, où Alan récupère le ballon assez haut. Il lance Mertens, qui ensuite, un coup, il la donne à Insigne, mais une frappe croisée. Et ensuite, il la lance à Caleron, qui arrive en second rideau et qui, en une touche dans la surface, marque. Et ce qui est intéressant avec cette équipe de Naples, c'est qu'on sent vraiment qu'elle joue sans Milik, dans le sens où Milik, c'est un joueur qui peut être, on va dire, une espèce de sous Ibrahimovic, qui peut être très mobile, mais qui a aussi un bon gabarit, qui peut prendre des ballons de la tête, et qui peut permettre au bloc d'avancer sans forcément qu'il y ait un jeu de position incroyable. Là, avec Mertens, forcément, tu peux pas faire ça, donc ça bouge beaucoup. Alors il y a de très bons enchaînements au milieu, de très bonnes combinaisons, et quand ça se projette, Mertens, Caleron, Insigne, c'est vraiment très dur à stopper. Le problème, c'est que Mertens, c'est pas un pur numéro 9, et que même s'il était très bon offensivement en ce moment, et qu'il s'est fait toute une série où, je sais pas, il a marqué 7-8 buts en 4 matchs, bah, malgré tout, il a quand même 2-3 lacunes dans le jeu aérien. Forcément, tu peux pas faire de centre parce que sinon tu vas pas le trouver, donc tu es toujours obligé de jouer au sol. Alors ça se projette très bien, et quand tu arrives à récupérer, à lancer des contres, et que tu as la dose de réalisme qu'il faut, bah, ça joue très bien, et il y a du jeu au sol vraiment très intéressant. Le problème, c'est qu'ensuite, bon, déjà le but qu'ils prennent, c'est une erreur de relance parce qu'ils veulent un petit peu trop jouer avec des joueurs, enfin, dans un contexte qui n'était pas bon, avec un joueur comme Tonelli qui s'est peut-être un petit peu surestimé dans le jeu au sol, parce que d'habitude c'est un remplaçant, c'est le remplaçant de Koulibaly, mais Koulibaly est à la canne.
Comme Rolando et Doria sur le troisième but lyonnais.
Ouais, c'est ça.
Voilà, bon, c'est un petit peu moins scandaleux, mais c'est effectivement l'idée. Et ensuite, on a vu une équipe de Milan qui, une fois qu'elle a marqué, elle a vraiment imposé un gros pressing. Et là, Naples, qui était vraiment très impressionnant pendant 30-35 minutes, là, ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Et il s'en est fallu, je pense, du manque de réalisme de Milan, aussi peut-être un peu le manque de talent, parce que cette équipe-là, elle est pas mal, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs moyens, moyens plus. C'est un genre de Saint-Étienne italien un petit peu plus classe.
Tu vas te
Tu peux
faire
vraiment aligner deux équipes à peu près semblables. Tu as 2-3 joueurs qui sortent un petit peu du lot, mais sinon, enfin, ça manque un peu de fourrique
Oui,
classée.
tu veux dire dans le sens 5e, 6e effectif d'Italie.
Oui, c'est ça. Mais
Après,
en plus,
avec beaucoup de joueurs en mer.
tu peux changer l'équipe de plein de manières différentes. Tu peux intégrer des jeunes. Tu auras à peu près toujours le même niveau. Les temps de jeu sont
Même Kevin
assez
Money
répartis.
Paquet.
No comment. Voilà, t'as beaucoup de joueurs qui ont du temps de jeu de manière régulière, mais qui arrivent pas forcément à s'imposer de manière définitive. Et donc Naples gagne 2-1, mais s'en sort bien parce qu'en deuxième mi-temps, ils voient pas trop le ballon. Après, le truc, c'est qu'ils ont quand même beaucoup d'occasions en contre malgré tout, même s'ils prenaient un peu l'eau au milieu avec Alan et Jorginho qui étaient en sous-nombre face au milieu de Milan qui pressait très haut, avec notamment un bon Sosa qui est le trentenaire qui est venu gonfler l'effectif, parce qu'au milieu, c'était généralement assez jeune. Donc Naples, selon la période du match que tu regardes, soit tu vas te dire cette équipe-là peut faire mal à tout le monde, et notamment au Real, parce que sur le jeu en transition, c'est vraiment très très fort. Mais si tu vois la seconde partie du match, tu vois qu'ils ont vraiment souffert dès qu'ils avaient plus le ballon, et Milan termine, je crois, avec 55% de possession. Et donc là, tu dis que si le Real fait tourner, ils arriveront à faire mal à cette défense. Donc c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Mais après, Milan, c'est quand même une équipe très solide. Et finalement, c'est peut-être plus le testament que Milan est capable de faire des bonnes choses plutôt que des limites de Naples.
Raphaël, sur ce, le prochain Naples-Real à venir, en gros, si on résume ce qu'a dit Christophe, si le Real prend un petit peu ce match à la légère et décide un petit peu d'attendre Naples, et notamment de les laisser sortir, en gros, c'est ce que tu disais, Christophe, si tu les laisses un peu venir, leur, la qualité de leur jeu placé peut vite te mettre en difficulté. Par contre, si tu vas aller chercher, et le Real d'ailleurs a montré dernièrement qu'ils étaient capables un petit peu d'aller chercher plus haut, il avait montré face à Séville avec leur 3-5-2 dont on avait parlé la semaine dernière, que le Real de toute façon a forcément les armes, mais c'est vrai que tactiquement, peut-être qu'il aura plus d'armes qu'il n'avait la saison dernière, voire peut-être la saison d'avant pour faire face à cette équipe de Naples. Mais bon, faudra faire attention au final. Ça reste ouvert comme match.
La question que je me pose, puisque c'est le Real qui décidera de comment va se passer le match, ou en tout cas est-ce qu'ils auront le ballon ou pas, c'est justement est-ce que Zidane va vouloir que son équipe prenne le ballon ou pas. Parce que si tu le prends, bah tu vas repousser le Napoli loin dans son camp, mais ils ont une capacité à ressortir proprement qui leur permet, comme le disait Christophe, d'être très bons en transition. C'est pas seulement... ils sont très très bons sur attaque placée, d'ailleurs la plupart des matchs ils ont la possession, mais cette capacité à ressortir en jouant une touche de balle dans leur camp, ça leur permet aussi d'être bon sur les contres, et ensuite ils ont des joueurs devant comme Insigne ou Caillerron ou même Mertens en tant que numéro 9 parce qu'il est très rapide, qui peuvent te punir, Hamsik aussi qui est un très bon joueur pour se projeter, qui peuvent te punir sur un contre. Donc je ne sais pas si le Real prendra le ballon ou pas sur cette rencontre, sachant que Zidane a montré qu'il était capable de jouer de plusieurs manières différentes. Et peut-être que son Real d'ailleurs veut moins du ballon que ne le voulait le Real d'Ancelotti lors de sa dernière saison, où ça avait vraiment penché vers un Real qui ressemblait beaucoup au Barça de l'époque Guardiola, c'est-à-dire un Real qui confisquait le ballon. Là, je me pose la question. Après, je regardais justement les deux équipes parce que Christophe a attisé ma curiosité sur le 11 du Milan qui, c'est vrai, ressemble un peu à un espèce de bazar général parce que la défense, c'est Calabria, Paleta, Gomez, Abate, c'est un peu folklorique. Mais je regardais la compo de Naples aussi et il leur manquait en effet Koulibaly et Goulam sur l'aile gauche. Alors Goulam, ouais, qui n'a pas fait une très grande Coupe d'Afrique des Nations, pour ce qu'on peut dire, mais qui par contre peut apporter aussi lui en contre, et Kalidou Koulibaly qui est sans doute le meilleur défenseur central de Naples et peut-être de Serie A depuis 2-3 ans, en tout cas il est en concurrence avec Bonucci, avec Manolas, des joueurs comme ça. Donc voilà, je suis très curieux de voir comment Naples va jouer, parce que c'est une équipe qui, c'est depuis que Sarri est là, qui est connue pour sa qualité sur attaque placée, mais justement est-ce que le Real va les laisser jouer comme ça, ou est-ce qu'ils vont prendre le risque d'aller jouer haut et de se faire contrer par notamment par Caillerron, qui est un très bon joueur de déplacement, l'ancien du Real. Voilà, c'est ma question sur ce match-là. Que va faire Zidane et qu'est-ce qu'il va décider de faire ?
Christophe, je vais te donner une chance de te rattraper, parce que sinon on a des Milanais qui vont jeter une fatwa sur le podcast. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Au-delà de leur capacité à être le Saint-Étienne de la Serie A, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Milan de Montella ? Équipe solide, tu l'as dit. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, parce que c'est une équipe assez efficace sur le plan défensif au niveau des tirs concédés par but encaissé. Mais sinon, est-ce qu'il y a des individualités qui sont ressorties sur ce match-là ?
Sur ce match-là, et de manière générale, je pense que ce qu'il faut reconnaître à Montella, c'est la capacité à intégrer des jeunes, et des jeunes qui de suite s'affirment. Effectivement, Raphaël a mentionné Calabria, qui est un joueur de 20 ans, qui commence là, à avoir du temps de jeu et qui a déjà dépassé son temps de jeu en carrière. Avant cette saison, il avait joué assez peu et là il commence à s'installer. C'est pas, pour l'instant, c'est pas encore incroyable, mais ça commence à devenir intéressant. La vraie satisfaction et la vraie révélation, c'est Manuel Locatelli au milieu, qui, au-delà d'avoir marqué deux buts incroyables de tir en lucarne de l'extérieur de la surface, qui donne la victoire contre la Juve et contre Sassuolo à deux semaines d'écart. Il avait joué 90 minutes dans sa carrière avec Milan, et là cette année c'est devenu un titulaire pas indéboulonnable, mais en tout cas c'est devenu vraiment un très bon joueur. Lui, il a 19 ans, donc en plus on peut estimer que ça pourrait progresser. Après, tu as beaucoup de joueurs qui sont comme on le disait tout à l'heure de Zambo, pas des produits finis, alors c'est pas forcément au même niveau, mais quelqu'un comme Souzo qui est leur ailier droit, qui a 23 ans, l'Espagnol, qui a déjà toute une carrière derrière lui, parce qu'il était à la Masia, il était à Liverpool, à Almeria, au Genoa l'an dernier. Ça fait pas mal d'années qu'on estime que ça pourrait être un très bon joueur. Il avait un petit peu tardé à confirmer. Lui, par exemple, c'est vraiment le joueur indiscutable de l'équipe. C'est le titulaire, enfin, c'est le joueur de champ qui a le plus de temps de jeu. Et le problème, c'est qu'il arrive à faire beaucoup de différences, mais qu'il va assez facilement s'enfermer dans sa logique. Je fais 40 mètres avec le ballon en faisant des dribbles, et à chaque fois il va vouloir ponctuer ça d'une frappe, par exemple.
Il tire trois fois par match, hein. C'est celui qui tire le plus à Milan.
Ah ouais, il y a une paire de fois où il arrivait, il faisait 50 mètres avec le ballon, tu te dis c'est énorme, il y a un 3 contre 2, donne-la en profondeur à un Bonaventura ou autre, et lui il va la jouer tout seul en bout de course à 20 mètres, il va faire une frappe nulle, ou voilà, il va tenter le dribble de trop. Donc là c'est un petit peu dommage, après c'est quelqu'un qui a déjà marqué 5 buts, donc tu peux pas tout lui enlever. Il y a Bakka en pointe qui fait toujours le boulot, même si c'est même s'il est plus dans ses standards sévillants et qui marque un petit peu moins. Et après, tu as deux, trois interrogations. Il y a Pašalić qui a fait une tête sur la barre, qui était vraiment bon au pressing, mais j'ai deux, trois doutes sur la capacité à Pašalić à vraiment devenir un très grand joueur. Et il y a Mbanyang Niang qui avait vraiment pas mal commencé, qui ensuite s'est illustré en ratant des tirs au but, enfin des pénaltys. Et là, Niang en ce moment, c'est vraiment pas ça du tout. Il met plus un pied devant l'autre. Après, il y a aussi le côté jeunesse. Hein. Niang a 22 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe-là. Donc, je pense que ça manque encore d'un 11 qui se dégagerait pour vraiment installer les choses. Mais je pense que Montella est vraiment en train de tâtonner
Ah mais
et de choisir ce qui pourra devenir son équipe pour les 2-3 prochaines années.
généralement ça manque de qualité. Quand tu te rappelles de la Fiorentina justement de Montella, il avait quand même des bien meilleurs joueurs que ça. Il avait des Borja, il avait des Rossi devant, derrière il avait des joueurs capables de relancer. Il avait du Marcos Alonso sur les côtés. Là, c'est par rapport à ça, c'est très jeune, tu l'as dit en effet. Et les joueurs qui sont plus âgés ne t'apportent pas forcément. C'est ça aussi le souci quand tu vois des Paleta, des Abate, des Kuka. Si tu veux, les jeunes normalement d'ici peu seront meilleurs que ces gars-là. Luis Adriano, il joue plus, je sais même pas ce qu'il devient là. Il est parti ou pas?
Parti au Spartak.
Il est parti au Spartak. Bon, et puis il y a une stat qui est intéressante quand tu as dit que Suso tirait beaucoup. C'est aussi le cas de Bonaventura. Là, je regarde, ils sont tous les deux à plus de 2,5 tirs par match, alors que Bakka, qui marque moins cette saison, est à seulement 1,7 tirs par match. Donc voilà, il y a peut-être un peu d'égoïsme, ou alors on n'arrive pas vraiment à trouver l'avant-centre. Mais je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner avec du recrutement, parce que la Fiorentina de Montella, c'était je pense, une des quelques équipes dans les années 2010, en tout cas, qui a été vraiment très très séduisante dans sa manière de jouer.
Et Christophe,
Là,
tu as oublié Gianluigi Donnarumma quand même, qui a failli égaliser en fin de match.
Ouais, bon après là sur ce match, malheureusement pour lui, il est coupable sur, on va dire qu'il est légèrement coupable sur un but et assez responsable sur le deuxième. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est l'un de ces rares et encore, je sais même pas si on peut dire mauvais match parce qu'il gagne 2-3 duels face à Mertens par la suite. Donc, et effectivement, en fin de match, il met une tête qui arrêtait, bon, qui manque un peu de puissance, n'empêche qu'il monte sur un coup franc et c'est lui qui prend le ballon de la tête. Il faut pas oublier que ce joueur-là, il a 17 ans et que la plupart des gardiens de 17 ans, ils jouent dans les équipes C. Donc, d'être déjà là à son âge aussi régulier et que la question de sa jeunesse ne se pose même plus et c'est à un niveau moindre, mais c'est un peu comme Lafond, le côté Paris jeunesse a été oublié et maintenant c'est un titulaire indiscutable et même le taulier de l'équipe, bah c'est très fort. Après, bon, la Juve est apparemment déjà dessus pour remplacer Buffon et les deux s'entendent très très bien. Et j'ai peur que lui, ça le gonfle assez rapidement, Donnarumma, de devoir faire des exploits parce qu'il est devant lui, il n'y a Paleta, Gomez, Abate et compagnie. Donc à voir. Et juste comme ça, Milan vient de prendre Deulofeu. Donc à voir si
Un autre
ça va
ailier
améliorer le groupe. Mais
un autre
quand tu
ailier qui
vois
aime
les.
bien tirer.
Ouais, c'est ça.
Perturbant.
Mais quand tu vois qu'il y a Honda qui joue jamais, qu'il y a Matias Fernandez, enfin il y a vraiment trop de joueurs qui servent entre guillemets à rien, quoi. Il faut.
Est-ce que ce serait pas plutôt une comparaison avec Rennes qui serait pertinente?
Ouais, aussi,
Dans
ouais.
le fait qu'ils ont Vangioni qui est arrivé aussi.
Ouais, il était sur le
Ouais,
banc là
donc.
contre Naples. A
Ouais,
priori.
beaucoup de joueurs en effet. Montolivo qui joue plus trop. Enfin bon.
Allez, on enchaîne. Après l'Italie, on va repartir directement en Angleterre pour parler un petit peu du choc du week-end, Raphaël, entre Tottenham et Manchester City. Alors, on va faire assez vite parce qu'au final, on a beaucoup parlé déjà de ces deux équipes et elles nous ont pas forcément surprises, même si je pense que c'est ce que tu vas dire. Guardiola, pour une fois, a quand même dominé tout le match.
Oui, tout le match. Un très bon match d'ailleurs, hein, pour ceux qui l'ont vu. Très, très, très agréable, parce que les deux équipes, en effet, sont parties pressées dans le camp adverse avec un marquage individuel très agressif. Par moments, ça m'a fait repenser un peu au Bayern-Barça de 2015 ou 2016, celui où Messi met la misère à Boateng. Alors, les gens s'en rappelleront. C'est-à-dire que
2015, du coup, ouais.
les deux équipes étaient parties jouer très très haut. Il y avait énormément de profondeur dans le dos de la défense. Alors, plus dans le dos de City qui avançait que dans le dos de Tottenham qui restait un peu plus bas et qui du coup laissait des espaces entre les lignes, notamment à De Bruyne et à Silva. Et là-dessus, le gelon de Bravo, qui était, Bravo était très critiqué, mais le gelon de Bravo là-dessus a beaucoup apporté parce que quand Tottenham allait presser les défenseurs centraux de City, bah, Bravo balançait directement pour De Bruyne ou Silva entre les lignes. Et après, ça partait très très vite vers l'avant, ça c'était intéressant. Un match vraiment très bon tactiquement. Tottenham a commencé à 3 derrière et ils sont passés finalement à 4 parce que ça ne fonctionnait pas. Un peu comme d'ailleurs Guardiola avait fait contre le Barça où il avait commencé à 3, il était passé à 4 en cours de match, si je ne me trompe pas.
Non, oui, c'est ça. Raison, ouais. Au bout d'un quart d'heure, oui, ils changent parce qu'ils se font ouvrir à Suarez qui part au but et qui a un duel à jouer face à face avec Neuer, je crois. Et juste après, Guardiola fait le changement.
Ouais, bah, tu vois, c'est intéressant de voir que cette fois-ci, c'est Pochettino qui a subi cette domination. Puis après, par contre, City a eu le même problème que lors de beaucoup de gros matchs, c'est qu'ils ont vendangé, mais un nombre d'occasions terribles. Je crois qu'ils finissent à 3,5 expected goals.
Ouais, c'est dans ces zones-là. Ouais.
Tottenham est à 1,5 ou quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup aussi, 1,5. Hein. Ça veut dire que tu as concédé pas mal d'occasions, mais c'est un souci. Et puis, il y a cette situation en fin de match litigieuse où Sterling arrive en 1 contre 1 contre Lloris. Bon, alors Sterling, c'est pas le meilleur finisseur, mais quand tu te fais pousser dans le dos par Walker qui le fait, mais de manière très flagrante et qui déséquilibre Sterling au moment de conclure, et l'arbitre ne siffle rien. Donc là-dessus, Guardiola pète un plomb, et dans la minute ou dans 2 minutes après, bah, Tottenham égalise à 2 partout. C'était un match assez particulier, assez fou, et je pense qu'il a dû faire du bien à City parce qu'ils ont été dominants dans la plupart des phases de jeu. Ils se sont montrés très bons dans la manière de construire, dans la manière de faire la différence entre les lignes. Ça a joué très très vite vers l'avant. Kevin De Bruyne a encore été énorme. Et voilà, je pense que ça a fait du bien à City malgré le résultat, parce que dans le jeu, tu as senti qu'ils étaient quand même capables de dominer des équipes très très fortes comme Tottenham, qui est la meilleure équipe, la meilleure défense de Premier League peut-être derrière Chelsea, et qui en plus est très bon dans sa manière de jouer. Donc ça, c'était intéressant pour City, et ça remet un peu de baume au cœur après les dernières semaines connues par Guardiola.
Christophe, quelque chose à ajouter sur ce match?
Non.
Non.
Non, mais on peut dire que City a quand même vraiment pas de chance. Il y a des entraîneurs ou des clubs qui ont des saisons où tout réussit. Et là, City, ils sont vraiment dans une spirale où je pense que je sais pas qui joue au prochain match, mais je pense
West
qu'il
Ham.
Faut surtout
West Ham. West Ham.
Bah, il faut. Je pense que Antonio peut tenter des têtes de 40 mètres. Et des choses comme ça, ça peut, avec un coup de vent, ça peut peut-être rentrer, parce que là, quand tu vois Tottenham à 2-0, tu te dis, bon, a priori, c'est plié, et quand ça revient à 2-1, et moi, sur l'action, dès que je crois que c'est Eriksen qui arrive à 30 mètres du but adverse, et que ça commence à combiner, alors que Tottenham a quasiment pas une seule fois réussi à passer le premier rideau, à arriver avec le ballon sur jeu placé à 30 mètres du but, tu te dis, oula, à tous les coups, ils vont s'en prendre un, et bien sûr, ça manque pas. Il y a but, et c'est quasiment la seule fois du match où tu as une action comme ça, où le pressing ultra agressif avec beaucoup de joueurs offensifs de City arrive à être cassé, et où Tottenham arrive à mettre son jeu en place, et là-dessus il marque, et tu dis, bon, Guardiola, il y a des moments où il doit se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus, si même là j'arrive pas à gagner les matchs, ça va quand même être compliqué.
Il y a l'occasion de City en fin de match, où c'est, je me rappelle plus d'ailleurs, qui rate ou qui croque, où justement City passe à deux doigts de mettre le 3-2, et tu le vois quand même se prendre la tête à deux mains, il tombe par terre, peut-être qu'il n'en peut plus. D'ailleurs, à signaler, on n'en a pas parlé, mais la bonne entrée de Gabriel Jesus, qui a fait une entrée pleine de personnalité, il se procure une occasion, il élimine, il marque un but qui est signalé hors-jeu, et d'ailleurs il célèbre comme s'il avait marqué alors que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait hors-jeu. Mais très très prometteur sur quelques minutes. Alors évidemment, on s'enflamme parce que l'échantillon est très très faible et très limité, mais franchement, une entrée comme ça alors que t'arrives en Angleterre et t'arrives en Europe et t'as 19 piges, c'est disons que le gamin il a pas peur.
Il a
en
pas
plus,
peur.
Il remplaçait Sterling qui a été exceptionnel pendant un mois et demi, 2 mois, et qui depuis n'est plus un pied devant l'autre. Donc en plus, il paraît encore meilleur.
Sterling qui a dû avoir une goutte de sueur quand il a vu Jesus entrer, parce qu'il s'est dit, oh là.
Du coup, Jesus qui est rentré sur un côté, alors.
Ouais, qui est rentré sur l'aile gauche, ouais.
D'accord. Allez, on enchaîne après ce Tottenham City. Justement, bah, au final, le grand vainqueur du week-end, Raphaël, c'est Chelsea, vu que tous les autres pensionnaires du top 6 n'ont pas gagné, puisque Manchester a fait le match nul. Arsenal a gagné, pardon, et a pris la deuxième place, c'est vrai, la dernière seconde, puisque Manchester a fait nul à Stoke, et donc Liverpool a perdu face à Swansea, et tu voulais notamment nous parler de Liverpool, qui au final est en train un petit peu de suivre la trajectoire qu'a suivi City entre novembre et décembre. Là, c'est au tour de Liverpool de glisser petit à petit au classement.
Ouais, Liverpool qui souffre un peu de, à la fois de ses faiblesses collectives et de ses manques individuels. C'est-à-dire que Coutinho a manqué pendant de longs mois, où justement le nombre de tirs tentés par match par Liverpool a vraiment faibli. Et puis là, c'est Mané qui est parti à la CAN. Donc finalement, au lieu que les deux soient absents en même temps et tu te dis on va souffrir, mais au moins ça va être court, bah là, tu cumules, tu enchaînes des périodes où il te manque un joueur clé. Par contre, moi, ce qui me gêne surtout, c'est défensivement, parce que Liverpool marque encore deux buts. Donc en général, deux buts, quand tu es une grosse équipe, ça te suffit pour gagner. Là, ils en prennent deux ou trois contre des petits. Ça fait plusieurs fois. Ils en avaient pris quatre à Bournemouth. Ils en ont pris deux contre Sunderland, deux contre West Ham. Là, ils en prennent trois contre Swansea. Voilà, défensivement. Alors, c'est une équipe, Liverpool, qui a un projet de jeu très ambitieux, puisque tu places les latéraux très haut. Tu mets Henderson devant la défense. Et puis après, tu as Lovren et Clavan en ce moment, puisque Matip revient d'une suspension qui n'était pas une suspension, en fait, puisque la FIFA l'a autorisé à jouer. Donc, t'as trois joueurs, finalement, qui vont défendre et un gardien moyen, que ce soit Karius ou Mignolet, contre des équipes qui vont contrer pas forcément un plus de 2 ou 3, mais ça te suffit pour être en 1 contre 1, pour être en 2 contre 2, pour être en 3 contre 3. Et dans ces situations-là, contrairement à des très bons défenseurs centraux ou un très bon numéro 6 défensivement, ces 3-là ne suffisent pas pour bloquer ces joueurs-là. Et le troisième but de Swansea, qui est marqué par Sigurdsson, c'est un enchaînement de maladresses défensives entre Lovren qui se place mal, qui s'oriente mal, entre Clavan qui a les jambes qui partent dans tous les sens. Moi, disons que le club a dit qu'il n'avait pas besoin de recruter cet hiver. Alors, il n'y a pas forcément des joueurs. Il a dit qu'en tout cas que les autres clubs avaient refusé les offres faites par Liverpool. Donc, j'espère qu'il y en avait une pour Van Dijk, en tout cas. Mais ce serait bien qu'à un moment Liverpool se mette à recruter un grand défenseur central, parce que je pense que depuis Daniel Agger, ou les premières saisons de Daniel Agger avant qu'il continue et qu'il se mette à se blesser tout le temps, Liverpool n'a pas eu un très bon défenseur central depuis. Matip est revenu là, donc à voir, parce que c'est un joueur qui a du potentiel. Mais si on regarde finalement la période à laquelle Liverpool a commencé à régresser, c'est le déclin de Reina en 2010-2011, et ensuite il s'en va assez rapidement. Et c'est le fait que Carragher et Ipia aient commencé à décliner également en même temps. Ipia a arrêté sa carrière et Carragher a vieilli. Et depuis, il n'y a pas eu un défenseur central de très grand talent à Liverpool. Skrtel a fait des années titulaire alors que c'était un défenseur moyen. Et d'ailleurs, on n'entend plus parler depuis qu'il est en Turquie, et c'est normal. Voilà, donc c'est le futur projet Liverpool, trouver un défenseur central qui va être là pour 10 ans et très très fort et permettre de compenser, ou en tout cas de pouvoir jouer avec de manière aussi ambitieuse et de quand même de réussir à ne pas prendre 3 buts par match contre les petits.
Christophe, tu as une idée pour ce défenseur-là ou pas?
Pas Van Dijk.
Non, mais ça paraît évident, mais le souci c'est qu'il va être demandé par tout le monde, et Liverpool, je suis pas sûr soit le premier nom pour les joueurs qui sont en Angleterre, notamment parce que les gens n'aiment pas vivre à Liverpool. Je sais pas pourquoi, c'est une très belle ville, mais Sanchez a refusé Liverpool et il préférait vivre à Londres. Et puis après, Van Dijk va être demandé par les deux Manchester, va être demandé par Chelsea, et là je pense que ça va faire beaucoup de dégâts à la comparaison entre les deux villes.
Allez, je pense qu'on a fait le tour hein, sur la première ligue ce week-end, pas la peine de s'éterniser, et on va terminer avec nos bonbons, et je vais commencer par le mien, ça va être un peu plus un gâteau qu'un bonbon, ça va être un peu plus consistant. On va parler un peu de Cannes avec la Coupe d'Afrique donc des Nations qui va terminer sa phase de poule cette semaine, et moi j'ai envie de vous parler du Sénégal, parce que pour avoir vu quelques matchs, entre la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, j'ai pas été, il y en a aucune qui m'a totalement convaincu, même si la Tunisie a...
C'est pas mal, hein.
C'est, ouais, et pas mal. D'ailleurs, moi, si je devais donner un pronostic aujourd'hui pour la finale, je serais pas surpris que le Sénégal et la Tunisie s'y retrouvent. Voilà.
La Tunisie, ils ont une très bonne ligne de 3 derrière l'attaquant. Ouais. Msakni, je sais pas si je le prononce bien, mais.
Sliti et Kazri.
Sliti, c'est très très bon. Et Sliti continue de confirmer que c'est un joueur qui aurait dû venir au plus haut niveau depuis très longtemps, parce qu'il s'adapte rapidement à la Ligue 1 et à un niveau comme la CAN.
Non, c'est ça. Mais c'est vrai que le Sénégal, pour moi, est une équipe très intéressante, parce qu'au final, c'est assez cohérent dans le projet de jeu. Alors, ils ont eu du mal face à la Tunisie. Lors du premier match, mais c'est à relativiser, puisque sur ce premier match-là, si vous prenez les expected goals, et vous savez l'évolution des expected goals au fil du match, vu que c'est une modélisation que vous pouvez trouver facilement sur Twitter avec Elftegen. Si vous prenez la première demi-heure, le Sénégal domine largement et met ses deux buts, et après peut-être un peu en contrôle, et au final c'est la Tunisie qui finit à 1,5 je crois en expected goals, et le Sénégal qui est juste à 0,5. Mais les 0,5 sont concentrés dans la première demi-heure, donc voilà, c'est un petit peu biaisé. Sur le deuxième match face au Zimbabwe, ils ont largement dominé, et hier ils font 2-2 avec l'Algérie, mais avec une équipe B. Et quand vous voyez l'équipe A du Sénégal, et moi je l'ai d'abord vu face au Zimbabwe, et après j'ai revu le match face à la Tunisie, Je trouve ça très cohérent parce que à la base vous avez bon, il y a Diallo dans les buts, ancien Rennais je crois. Ensuite vous avez Koulibaly dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de Naples, donc on connaît, défenseur très solide mais qui est aussi bon relanceur
et très bon relanceur,
très bon relanceur,
une très bonne patte gauche
et qui est accompagné pour moi d'un joueur que j'ai découvert, c'était Kara Mbodji qui joue à Anderlecht. Et que j'ai aussi trouvé très bon relanceur en fait face au Zimbabwe. Alors pas forcément dans la capacité à porter la balle, la conduction, il n'avait pas forcément. Par contre, la passe capable de casser les lignes et notamment la passe longue capable de casser les lignes, sachant que c'est des lignes pas forcément très regroupées, hein, parce qu'en face, on est de plus en plus organisé en Afrique, mais c'est pas non plus les blocs qu'on retrouve en Europe. Ouais, donc il y avait des intervalles à exploiter. Il a très bien fait en début de match. Et du coup, le fait d'avoir ces deux défenseurs plutôt relanceurs, c'est bien parce qu'au milieu, en effet, après, vous avez deux joueurs qui sont plus dans la destruction, dans l'énergie que dans la création. C'est Idrissa Gueye, qui est un des meilleurs récupérateurs de Première Ligue cette saison, voire le meilleur peut-être d'ailleurs. Et Tchékou Kouyaté, qui fait un petit peu le même boulot avec 20 cm de plus du côté de West Ham. Je parle de sa taille, évidemment, 20 cm.
Qui est peut-être un peu plus dans la projection Kouyaté.
Aussi, exactement.
Et, il y a des longues courses avec ses grandes pattes, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ne sont pas forcément très inventifs.
Et du coup, c'est assez logique d'avoir, contre le Zimbabwe, on se retrouvait avec une relance gérée par Koulibaly et Mbodji. Ou Mbodge, je sais pas comment on dit d'ailleurs, il y a les deux orthographes, qui ensuite essayaient de trouver ou bien Sadio Mané, ou bien Keita Baldé, ou bien Henri Cévé entre les lignes adverses. Et du coup, si la balle était perdue par ces trois-là, t'avais direct Kouyaté ou Gueye pour le contre-pressing et qui était prêt à intervenir. Et ce qui fait que le Sénégal pouvait être bon à la fois sur attaque placée et aussi sur contre-pressing, avec en plus, quand il n'avait pas le ballon, un pressing-go et une envie de récupérer très vite le ballon. Parce que là encore, si vous forcez l'adversaire à jouer long et que vos deux joueurs sur les deuxièmes ballons, vos deux milieux, c'est Gueye et Kouyaté, vous êtes plutôt armés aussi quand même pour être bon à la gratte. Et ensuite, pour attaquer très vite, puisque vous ressortez sur Mané ou sur Baldé. Et puis devant, ben Henri Cévé, qui a été longtemps un de mes chouchous du côté de Bordeaux, que j'ai un peu perdu de vue parce qu'à Saint-Etienne, je ne regarde pas Saint-Etienne. Mais qu'il a été réinstallé en 10 après un premier match, du coup je l'avais dit, compliqué contre la Tunisie. Il a fait une bonne entrée contre la Tunisie, il a été titulaire contre le Zimbabwe. Et c'est un joueur intéressant parce que c'est un joueur évidemment qui est au service de Mané et de Baldé et qui relaye leur percée, qui les accompagne, qui joue juste en remise et qui est précis dans ses remises, qui peut aussi réorienter le jeu pour alerter les latéraux quand il faut jouer côté opposé avec Gassama et Mbengue. Donc au final, une équipe assez cohérente sur le plan tactique.
Qui joue en pointe devant toi ?
C'était Mambiram Diouf, le titulaire.
Ah oui, qui joue latéral droit à Stoke City.
et sinon, sur le banc, c'est Moussa Sow, la doublure.
C'est pas mal, ouais.
Donc voilà, une équipe pour moi très intéressante. Alors après, le vrai danger pour eux, il y en a plusieurs, c'est que les défenseurs, s'ils se mettent vite dans le match, ça va. Ils étaient très vite dans le match contre le Zimbabwe et ça a très bien tourné. Contre la Tunisie, tu vois, les moments de flottement où ils sont un peu loin de l'attaquant, où ils sont pas directement dedans, ben forcément, si vous pressez haut et que votre ligne de défense, elle est pas au contact des avant-centres ou des attaquants adverses, il peut y avoir des problèmes. Il y a aussi des problèmes de flottement sur les côtés quand Gassama et Mbengue jouent parfois un peu trop haut et sont pris dans le dos. Du coup, c'est le reste de l'équipe qui doit couvrir. Le reste de la ligne défensive. Donc c'est pas non plus parfait, mais j'en fais quand même mon favori pour cette CAN. Alors, il faudra faire gaffe en quart parce que le Cameroun, on l'avait vu contre l'équipe de France. Il y a quelques mois, c'est une équipe qui peut très bien faire déjouer l'adversaire. Ils avaient bien fait déjouer les Bleus, ils avaient fait un très bon match amical. Donc à voir, mais c'est vrai que pour moi, le Sénégal, en fait, c'est un petit peu la nouvelle Côte d'Ivoire dans le sens où t'as au moins un bon joueur sur chaque ligne. Un joueur de niveau international, quoi. Ouais. Et en plus, tu as le talent avec Mané, avec Keita Baldé. Talent qui aujourd'hui manque énormément à la Côte d'Ivoire, qui a perdu ses cadres et qui en plus n'a même plus de feu follet sur les côtés comme ils avaient d'habitude avec Gervinho, avec Kalou quand il était dans sa meilleure période. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe se retrouve en difficulté. Donc voilà. Voilà pourquoi j'en fais mon favori. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui, au final, n'a jamais gagné la CAN.
Donc c'est peut-être la bonne année pour eux, à voir.
Mais un point qui est très étonnant, enfin pas étonnant, mais j'ai du mal à l'expliquer, et qui est très fréquent dans cette CAN, et d'ailleurs dans les CAN des années passées, c'est pourquoi les équipes sont autant, aussi peu compactes en fait. Je me pose la question, parce que finalement je pense que la notion de compacité d'un bloc et d'organisation, c'est le truc qui peut-être est le plus partagé par tous les entraîneurs et les éducateurs du monde entier. C'est-à-dire que tout le monde sait que le principe c'est d'être compact et d'être proche du porteur si tu joues de manière orientée sur individuel, ou alors proche de son partenaire si tu joues en zone. Et j'ai l'impression que sur cette Coupe d'Afrique des Nations, la plupart des équipes, et même les bonnes équipes comme tu l'as dit, le Sénégal, ne sont pas forcément bien organisées sans le ballon. C'est assez étonnant, genre je ne saurais comment l'expliquer, mais c'est un point qui permet aussi parfois de voir des matchs un peu plus fous qu'en Europe lors des grandes compétitions, par exemple à l'Euro où les petites équipes étaient très très bien organisées en général.
Christophe, ce souci, c'est peut-être, ça vient aussi peut-être du niveau des entraîneurs et de ce qu'ils dégagent. En moyenne, on a pas mal parlé de Georges Likens, tous les trois même. Hein, et c'est vrai que l'Algérie avec Likens, elle a été beaucoup moins convaincante que ce qu'elle faisait avec Gourcuff avant qu'il décide de partir, a priori à cause de la presse, si j'ai bien suivi.
Ouais, y a de plus en plus d'entraîneurs de second rang dans les sélections nationales, et en Afrique c'est même du troisième rang. Je pense qu'il y a encore malheureusement un petit peu trop la tendance d'ailleurs à prendre des Européens,
des mauvais Européens en fait, c'est ça.
Mais le bas du panier, quoi. Et les Kens, c'est vraiment pas le top du top. On voit finalement que les entraîneurs africains, les Ibengue, réussissent très bien. Et en plus, ce qu'il y a aussi, ça concerne pas toutes les sélections, mais il y a une instabilité. Et quand tu vois que le Gabon a changé de sélectionneur juste avant la compète, que pareil, l'Algérie, les Kens vient quasiment d'arriver, en plus, tu te mets encore plus dans la difficulté que tu ne devrais. Donc, un, tu n'as pas beaucoup de temps, et deux, tu ne donnes pas beaucoup de temps à des entraîneurs qui ont déjà du mal à faire des choses quand ils en ont. Donc, l'un dans l'autre, tu pars pas gagnant.
Et justement, Christophe, ton bonbon, c'était aussi sur la CAN.
C'est ça. Moi, ça sera un tout petit bonbon. Ça sera un Dragibus.
Quelle couleur?
Noir.
Ça va.
C'est sur Rami Jridi, qui est le deuxième gardien tunisien qui a joué le dernier match, puisque Matt Louti, le titulaire, je crois qu'il était blessé, ou alors il était au repos, mais il me semble qu'il était blessé. Alors, je n'ai pas l'explication. J'ai lu que c'était apparemment pour des histoires de laser, pour ne pas être ébloui pour des lasers, mais en tout cas, il joue avec de la peinture sous les yeux. Alors, ce n'est pas de la peinture guerrière, même si ça fait un peu menaçant, mais je pense que ça ressemble à ce que font les quarterbacks en NFL. Là, il y a le Super Bowl qui arrive entre les Patriots et Atlanta et Falcons. Les deux quarterbacks de ces équipes-là, Matt Ryan et Tom Brady, ont aussi ces petits traits sous les yeux. Alors, on ne sait pas si c'est... Enfin, j'ai lu plusieurs études qui se contredisent un peu entre elles, mais c'est normalement censé t'empêcher d'être ébloui par le soleil par les pointeurs laser ou pour pas mal d'autres choses. Je pense que ça a peut-être un effet placebo, en tout cas ça peut pas faire de mal, mais c'est la première fois que je vois un gardien avec ses deux petits traits noirs sous les yeux. Alors on va voir si ça se démocratise un jour, mais le foot est un peu en retard sur les sports américains, sur le côté gains marginaux, mais peut-être que d'ici quelques années on verra d'autres gardiens mettre des traits de peinture noire sous les yeux pour éviter des Sébastien Frey ébloui par un projecteur. Voilà, à suivre. C'est peut-être juste lui qui se fait un petit délire tout seul, mais dans quelques années, pourquoi pas une nouvelle mode là-dessus.
Et Raphaël, le bonbon final, alors qu'on est à 58 minutes d'émission, c'est parfait, sur Harry Maguire. Donc qui est cette personne?
Je pense que vous ne saviez même pas, c'est un défenseur central de Hull City. Hull City qui a été repris par Marco Silva en tant que coach récemment. Qui a plutôt bien joué contre Chelsea. Alors ils ont perdu à Stamford Bridge, mais ils ont plutôt fait un bon match avec une équipe qui a été capable de relancer très proprement. Et justement sur Harry Maguire, on parlait tout à l'heure de l'OM et de défenseurs qui ne savent pas relancer. Alors je dis pas d'aller recruter Maguire, parce que recruter depuis l'Angleterre c'est très très cher, et l'OM se rend compte avec Payet. Mais c'est un joueur qui plusieurs fois cette saison a montré de très bonnes choses. C'est un joueur de 23 ans qui est capable d'avancer avec le ballon, d'avancer balle au pied, d'aller fixer, de jouer entre les lignes avec des passes bien claquées, bien appuyées. Et puis il a montré de très très bonnes choses contre Chelsea. Là je regarde ses stats, il a touché 94 fois le ballon. C'est rare pour un défenseur central dans un match contre un gros comme ça. Il a réussi 8 tacles, 8 interceptions, il a gagné 8 duels aériens. Il a réussi 5 dribbles pour un défenseur central et il tire 4 fois. Voilà, donc c'est des stats que Buffetti Mbigomis ne renierait pas. Et c'est un défenseur à suivre. Je pensais qu'il était. Alors il est tanké comme un joueur qui doit défendre au foot US, notamment qui doit aller saquer le quarterback. Mais par contre, il est plutôt agile, balle au pied. Voilà, donc des noms comme ça de joueurs qu'on connaît très peu, mais qui se révèlent peu à peu. Ça, voilà, je vous conseille de le suivre. Alors il a un nom qui ne dénote aucun charisme, Harry Maguire, comme disait Christophe juste avant l'émission. Ça fait, on dirait, un personnage de Dawson
ou un Regen.
Voilà, ou d'un Regen, c'est ça. D'ailleurs, il a un peu une tête de Regen, mais je vous conseille de suivre ce gars-là. Il joue à Hull City, une équipe qui est en difficulté, mais qui propose un jeu un petit peu plus ambitieux depuis que le nouveau coach est là.
Ok, et eh ben on va s'arrêter là-dessus. Merci Raphaël, merci Christophe.
Merci
vu du bon, épisode 22, c'est terminé. Alors pour nous écouter, on va faire un petit tour de ce qu'il faut faire pour les auditeurs, pour nous soutenir, puisqu'on a quand même atteint les 3000 écoutes la dernière fois. Alors pour nous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partager évidemment l'article, le podcast, mais les articles aussi, puisque ils seront partagés, le podcast sera partagé sur les cahiers du foot et chroniquetactique.fr, donc on peut partager tout ça. On peut aussi aller sur iTunes, si vous nous écoutez par iTunes, aller laisser une petite note ou un petit commentaire. Ça nous a permis de finir devant l'after la semaine dernière. C'était plutôt bien pour l'ego, on va dire. Et puis, dernier point, si vous voulez nous soutenir financièrement, il y a un Tipeee que vous pouvez trouver sur tipeee.fr/chronique tactique, je pense, ou en tout cas vous faites une recherche Google avec tout ça et vous trouverez le podcast, voilà, pour nous aider à améliorer la qualité technique, pour nous aider aussi peut-être à faire des déplacements à terme pour aller interviewer 2-3 personnes intéressantes. Donc voilà, comment nous soutenir, et pour nous soutenir aussi il faudra écouter l'épisode 23. À la prochaine, salut.